Théologie fondamentale du 27 janvier 1984, Rimont.
Bonsoir, pour que vous puissiez faire un petit exercice. Là, nous allons continuer cette étude théologique sur le mystère de l'Eucharistie. Nous avons vu l'institution de l'Eucharistie par Jésus et la manière maintenant dont l'Église, à un moment difficile, prend conscience de ce que représente pour elle le mystère de l'Eucharistie et comment nous devons le recevoir. Donc c'est ce passage important que nous devons connaître, absolument indispensable. On doit le connaître, ce passage-là. On doit les avoir lus et relus et comprendre un tout petit peu, si on avait le temps, le parallélisme avec saint Thomas. Et on verrait que le Concile a pris tout ce qu'il y avait d'essentiel dans la théologie de saint Thomas. C'est ça qui est très beau. Parce que sûrement que le mystère la théologie de l'Eucharistie dans saint Thomas, c'est la perle. Hein, c'est ça qui fait comprendre, si vous voulez, comment tout, d'une certaine manière, est ordonné à cette intelligence du mystère de l'Eucharistie. C'est pour ça que de voir que le Concile de Trente assume la pensée de saint Thomas de cette manière, c'est pour montrer que toute la théologie de saint Thomas, par là, est comme confirmée dans l'Église. C'est ça que je crois qu'on doit comprendre. Je vous ai dit, si on avait le temps, on ferait. Les pères jésuites ont demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie. Et Descartes a commencé par l'Eucharistie. Alors, il faudrait regarder ici, si certains ont le temps, le parallélisme entre la théologie de saint Thomas sur l'Eucharistie et le parallélisme avec Descartes. Parce que ça nous ferait comprendre la pensée moderne, vous comprenez. Descartes, c'est toujours pensée. Descartes, Gilson l'a très bien dit, que Descartes emploie le langage scolastique en lui donnant une nouvelle signification. Donc il s'introduit de cette manière-là, il fait une espèce de révolution, n'est-ce pas ? Ce n'est plus l'être qui mesure la pensée, mais c'est la pensée qui mesure l'être. Et là, il y a vraiment un tournant complet. Et de sorte que quand Karl Rahner dit que le tournant de la théologie moderne, c'est le remplacement de la métaphysique par l'anthropologie. Karl Rahner dit ça. Eh bien, c'est Descartes qui le fait. C'est important de le comprendre. Évidemment, Descartes le fait sans le dire. Mais considérer que la pensée mesure l'être et que ce n'est plus l'être qui mesure la pensée, oui, c'est la transformation de la métaphysique en anthropologie. Sauf que ce serait très intéressant. Si vous avez le temps, je vous le dis, ceux qui peuvent le faire, c'est un travail qui serait intéressant à faire. C'est parce que c'est quand même important de comprendre cela. D'un point de vue théologique et théologie de l'Église, hein, c'est toujours le mystère de l'Eucharistie. Parce que c'est par le mystère de l'Eucharistie que nous saisissons ce qu'est la sacramentalité. Je ne peux pas saisir la sacramentalité en dehors du sacrement de l'Eucharistie. Ce serait tout. C'est par le mystère de l'Eucharistie que je comprends ce que c'est que la sacramentalité. Alors la sacramentalité caractérise l'Église. L'Église du Christ, c'est l'Église de l'Eucharistie. Pas seulement l'Église de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne caractérise pas l'Église. La parole de Dieu, il y a aussi le peuple d'Israël, il y a aussi les protestants. C'est pas ça qui caractérise l'Église. L'Église catholique est caractérisée par l'Eucharistie. Donc, je continue, je crois que j'étais arrivé au numéro l'excellence de la très sainte Eucharistie par rapport aux autres sacrements, 738. Je crois que j'avais dit là. Je reprends un tout petit peu et vous allez tout de suite reprendre. La très sainte Eucharistie a ceci de commun avec les autres sacrements, qu'elle est le symbole d'une réalité sainte et la forme visible d'une grâce invisible. Donc ça, c'est la définition même du sacrement comme tel. Et c'est saint Augustin. Donc, la très sainte Eucharistie a ceci de commun avec tous les autres sacrements. Quelque chose de commun et quelque chose qui dépasse. Qu'elle est le symbole d'une réalité sainte et la forme visible d'une grâce invisible. Mais ce qu'elle représente, ce qu'elle présente d'excellent et de particulier, donc ce qu'elle a d'unique, si vous voulez, c'est que les autres sacrements n'ont leur vertu sanctifiante que lorsqu'on les reçoit, l'exercice. Mais dans l'Eucharistie, avant même qu'on la reçoive, on a l'auteur de la sainteté en personne. Vous pouvez adorer Jésus présent dans l'Eucharistie, mais vous ne pouvez pas le faire pour les autres sacrements. Donc, les autres sacrements ne nous donnent pas la présence du Christ. Et c'est pour ça que seul l'Eucharistie caractérise le mystère de l'Église, qui nous donne la présence de Jésus. Et ça s'est dit, hein, c'est dit textuellement. Alors vous comprenez, la tendance moderne, il faut comprendre ça, la tendance moderne, c'est de dire, de ramener les sacrements de l'Eucharistie à tous les autres. Et c'est très simple à saisir, parce que la philosophie moderne a remplacé la finalité par le fondement. Or, l'Eucharistie est le sacrement par excellence en raison de la finalité. Si à la place de regarder la finalité, vous regardez le fondement, alors c'est le baptême. Et vous allez définir l'Église par le baptême, et non plus par l'Eucharistie. Vous avez alors immédiatement à ce moment-là une autre vision de l'Église. Alors vous voyez pour l'œcuménisme comme c'est important. Si vous définissez l'Église par le baptême, oui, il y a une Église, tous ceux qui sont baptisés. Si vous définissez l'Église par l'Eucharistie, alors à ce moment-là, vous êtes obligé de dire attention. Et je crois que c'est là où on touche les deux grandes conceptions de l'œcuménisme. Les deux grandes conceptions de l'œcuménisme proviennent de deux conceptions de l'Église qu'on doit voir. On doit les voir, ces deux conceptions de l'Église. Parce que si on ne les voit pas, il y a quelque chose. On doit les voir intellectuellement, théologiquement, vous voyez ce que je veux dire. On doit concevoir d'où vient cette chose-là. Et, alors, c'est dit merveilleusement dans le Concile de Trente. Hein, c'est l'enseignement direct de l'Église. Donc ça, c'est pas une vision d'un théologien, c'est l'Église. Mais ce qu'elle présente d'excellent et particulier, c'est que les autres sacrements n'ont leur vertu sanctifiante que lorsqu'on les reçoit. Mais que dans l'Eucharistie, avant même qu'on la reçoive, on a l'auteur de la sainteté en personne. Donc c'est une histoire de présence. Et de l'autre côté, c'est uniquement dans l'exercice. Alors là, c'est très curieux et très intéressant à voir. Si une philosophie comme la phénoménologie, qui est avant tout le point de vue de l'exercice, est-elle capable encore de saisir la présence? Ça va le pousser, ça. On sent ça très bien. En effet, les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Eucharistie de la main du Seigneur, que pourtant déjà ils affirmaient qu'en vérité, c'est son corps qui leur présentait. Dans l'Église de Dieu, on a toujours cru qu'aussitôt après la consécration, alors soulignez ça, parce que ce sont des questions qui sont remises aujourd'hui très très bien, qu'on essaie de reprendre et de repenser, mais souvent en mettant le Concile de Trente entre parenthèses. Hein. Dans l'Église de Dieu, on a toujours cru qu'aussitôt après la consécration, le véritable corps de notre Seigneur et son véritable sang existent conjointement avec son âme et sa divinité sous les espèces du pain et du vin. Le corps est sous l'espèce du pain et le sang sous l'espèce du vin. En vertu des paroles, mais le corps est sous l'espèce du vin et le sang sous l'espèce du pain, et l'âme sous les deux espèces en vertu de cette connexion, de cette concomitance, comme dira saint Thomas. Ici, on est en vertu de cette connexion naturelle et de cette concomitance qui unissent toutes les parties du Seigneur Jésus-Christ, déjà ressuscité des morts et qui ne mourra plus. la divinité l'est à cause de son admirable union hypostatique avec son corps et son âme. C'est pourquoi il est tout à fait vrai que l'une ou l'autre espèce contient autant que les deux espèces ensemble. Comme il est seulement au corps, comme il est au corps, c'est la même chose, substantiellement. C'est pourquoi il est tout à fait vrai que l'une ou l'autre espèce contient autant que les deux espèces ensemble. Le Christ est en effet tout entier sous l'espèce du temps et sous la moindre parcelle de cette espèce. Tout entier sous l'espèce du vin et sous toutes ses parties. C'est net, hein, comme enseignement. C'est très net. Vous n'avez pas. Vous pouvez comprendre, essayer de bien comprendre, car nous essaierons de revenir là-dessus. Parce que vous comprenez que c'est à partir de là qu'il faut essayer de se dire qu'est-ce que c'est que cette présence sous le mode sacramentel. C'est important, tout est là. Je souligne qu'il y a une présence sacramentelle et qu'il y a une présence substantielle sacramentelle. Alors, c'est ce qu'on va souligner au chapitre 4. Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. On a toujours eu dans l'Église de Dieu cette conviction que déclare de nouveau le Saint-Concile, par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang, en changeant, et ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Alors là, je crois qu'il faut faire un petit nota bene. Hein. Bon, venez, comme c'est un sujet extrêmement difficile et délicat, Paul VI, Jean-Paul II, tous les deux ont dit que nous devions garder le terme transsubstantiation. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la tête des gens, n'est-ce pas, en disant qu'il faut faire avec intelligence, hein, comme toujours. Parce qu'on sait que c'est un point névralgique. Et on sent très bien ici, dans ce paragraphe du chapitre 4, 739, donc c'est un point névralgique parce que c'est pour nous faire comprendre la manière dont le Christ est présent. C'est un terme consacré par l'Église depuis le XIe siècle. Saint Thomas considère, puisque ça a été employé par l'Église 100 ans avant lui, que c'est déjà un terme traditionnel. Non, ne disons pas que c'est Saint Thomas qui l'a inventé. C'est très faux de dire ça. C'est pas du tout Saint Thomas. Je dis ça parce que certains disent transsubstantiation, c'est Saint Thomas. Mais non, c'est avant Saint Thomas. Et transsubstantiation était dit contre l'impanation. Et l'impanation, ça considérait de dire que le pain était le même, mais que s'ajoutait au pain la substance du Christ. Là, il y avait les deux qui étaient en même temps. C'était l'impanation dans le pain. Tandis que l'Église, à ce moment-là, a précisé non, transsubstantiation. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, le langage de l'Église, le langage de transsubstantiation que l'Église, par le Concile, a fait que ce terme, que cette expression, devient vénérable. Vous voyez bien, hein, que c'est plus que la tradition. C'est plus que la tradition. Il est introduit expressément dans le Concile. Saint Thomas, lui, le prenait comme un terme traditionnel. Et lui-même précisait, au point de vue théologique, comment le comprendre. Vous voyez, ce n'est pas Saint Thomas qui a dit transsubstantiation, Saint Thomas dit autre chose. Conversion totale, c'est différent. Ça, c'est la conclusion du théologien. Tandis que transsubstantiation est une expression qui est traditionnelle. Pendant le Concile, il y a eu un père du Concile, Philebès, je ne vais pas le nommer, dominicain qui a produit, j'ai eu en main. Dommage, je ne vais pas le garder, j'aurais dû le garder. Un document, donc il est facile à retrouver. Mais... un document qui consistait à dire qu'étant donné la nouvelle théologie, on devrait ne plus employer le mot transsubstantiation qui choque les protestants, nos frères séparés, et prendre une autre expression. Et cette autre expression, il la développe en disant trans-signification, trans-finalité. Alors, c'est intéressant à noter. Hein? Alors, l'Église n'a pas condamné ces deux expressions. Le Saint-Père Paul VI, dans son encyclique, vous savez, ça a été un certain beaucoup de boucans. Hein? Je me souviens, j'étais à Rome deux jours avant que ça paraisse. On l'attendait. Hein? Les théologiens étaient comme ça, ils disaient, est-ce que ça va paraître, ça va paraître, ça va paraître, ça va paraître. Là, ça faisait tout le tumulte. Parce que c'était la grosse question. Pendant le concile, le pape peut-il faire une encyclique? Deux conceptions du lien du pape et du concile. Est-ce que le pape, vous voyez, et c'est très 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 intéressant, ça, parce que dans un chapitre général, d'un ordre religieux comme le Père Jésus ou les Dominicains. Dans un chapitre général, le général n'aurait pas le droit de donner un motu proprio en disant voilà ce que je pense. Il n'aurait pas le droit. Le chapitre est plus que lui. Alors on projetait ce qui est vrai des chapitres religieux sur le concile. En disant, le concile est plus que le pape. Non. Puisque le concile n'a de valeur que parce qu'il est, parce que c'est le pape qui demande qu'il existe. Il faut que le pape soit consentant, et non seulement consentant, mais soit présent. Présent par un délégué, présent réellement. Donc, c'est tout à fait différent. C'est intéressant de ce point de vue ecclésiologique, comme ça. Ça aide à comprendre, parce qu'il y avait à ce moment-là des écrits qui avaient dit justement que le pape, pendant le concile, vous voyez, il remet son autorité de pape, il la remet à tous les évêques. Je vous suis. Non, le pape reste celui qui est responsable du concile en fin de vie. Et donc il est toujours plus. Et par le fait même, il n'a pas les mains et les pieds liés pendant le concile. Il peut agir pendant le concile. Et il peut, pour une raison ou pour une autre, émettre une encyclique durant le concile. Et c'était d'autant plus intéressant que c'était le premier concile qui avait lieu après la faillibilité du pape. Et c'était ce qui avait agité beaucoup les gens avant. Avec la faillibilité du pape, peut-on encore faire un concile? Un concile, il y avait la faillibilité du pape. Mais le pape ne perd pas son infaillibilité par un concile. Le pape garde son infaillibilité pendant le concile. Et donc, il est libre de faire une encyclique s'il juge qu'un moment difficile est particulièrement difficile. De faire une encyclique, et cette encyclique provient du fait que un père du concile avait de fait écrit à tout, c'était un expert, pardon, pas du concile, un expert dans la théologie, avait écrit une lettre libre à tous les pères du concile. En disant que, en raison de cette période œcuménique, il fallait que l'Église change le terme transsubstantiation dans le terme transsignification et transfinalité. Alors, le pape, dans son encyclique, il faut la lire, hein, concile, l'encyclique du pape Paul VI, et puis la lettre aux évêques de Jean-Paul II. Et ça, on a la tradition par rapport à ce mystère de l'Eucharistie. Hein. Et on a quelque chose qui montre la continuité. C'est important de comprendre cette continuité dans l'histoire de l'Église. Face à Charlot, hein, on comprend toujours, face à celui qui s'est opposé à cette tradition, qui a interprété cette tradition à sa manière, et interprétant cette tradition à sa manière, veut montrer que il faut à tout prix revenir à l'âge primitif de l'Église, équité, le triomphalisme. Parce que pour en définitive, c'est ça, vous savez, on est tous oubliant qu'il y a dans le mystère de l'Eucharistie quelque chose d'unique. Et ça définit l'Église. Selon le Concile, ça définit l'Église. Alors, vous voyez, très bien, vous pouvez employer ces deux expressions, mais vous n'avez absolument pas le droit de laisser tomber le point de vue de la transsubstantiation. Pourquoi ? Parce que transsignification reste au niveau intentionnel. Transfinalité reste au niveau intentionnel. Transsubstantiation n'est plus au niveau intentionnel, mais au niveau de l'être. Donc vous voyez que ceci ne peut pas remplacer cela. Ceci, transsignification, transfinalité, qui est au niveau de l'intentionnalité, ne peut pas remplacer transsubstantiation. Parce que transsubstantiation implique un changement dans l'être. C'est ça qui est exprimé. Tandis que transsignification et transfinalité n'impliquent pas nécessairement un changement dans l'être. C'est évident que s'il y a transsubstantiation, il y a transsignification et transfinalité. Ce sont des conséquences. Mais la conséquence ne remplace pas la cause. Et c'est la transsubstantiation qui explique c'est la transsubstantiation qui explique la transsignification et la transfinalité. C'est une cause. Cause des deux autres. Les deux autres sont des conséquences. Alors, dans ce papier, on donnait l'exemple du thé. C'est-à-dire, on montrait que la signification du thé pouvait changer quand vous avez le thé dans l'armoire, quand vous avez le thé dans la théière, quand vous avez le thé dans votre tasse, et quand vous êtes en train de boire. Et c'est vrai, les significations sont différentes, les finalités sont différentes. C'est évident que la finalité de l'hostie consacrée n'est plus la même que l'hostie non consacrée. C'est bien évident. Que la signification n'est pas la même. C'est bien évident. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. C'est une transsubstantiation. Alors, qu'est-ce que l'Église veut montrer par la transsubstantiation? Faisons attention. Quand on appelle transsubstantiation, d'abord, comprenons bien que dès que l'Église prend un terme, transsignification et transfinalité, l'Église vous a laissé là. Vous êtes libre de l'employer, c'est très bien. Je ne sais pas si ça explique plus, mais c'est très bien, on peut très bien le faire, il n'y a aucune difficulté. Mais ce qu'il faut, c'est que ça ne s'oppose pas à transsubstantiation. Qu'est-ce que l'Église veut dire quand elle dit transsubstantiation? Elle veut dire que la substance du pain n'existe plus après la consécration. Il ne reste que les espèces, c'est ça. Les espèces éternelles. On appelle les espèces éternelles. C'est-à-dire, les apparences du pain. Rien n'est changé à la vue. Après la consécration du pain, à la consécration du vin. Rien n'est changé à la vue. Rien n'est changé au toucher. Donc, les sensibles propres et les sensibles communs sont les mêmes. Et c'est important de dire les sensibles propres et les sensibles communs. Ce sont les mêmes. Les sensibles communs impliquent l'aspect de la quantité. Et les sensibles propres impliquent justement les sensibles propres immédiatement l'aspect de la qualité. Donc la quantité et la qualité ne sont pas changées. La figura n'est pas changée. Mais la substance. Alors qu'est-ce qu'on veut dire la substance? La substance est prise là, non pas du tout au niveau métaphysique, comme principe d'être, c'est pris dans une façon tout à fait commune. Qu'est-ce que c'est que la substance? On veut dire quelque chose de fondamental. bien comprendre, hein, c'est pas, on n'emploie pas le mot transsubstantiation avec en disant il faut comprendre ce qu'Aristote dit pour comprendre transsubstantiation. Là encore, c'est l'erreur. Hein, parce que dans ce texte de Schulbeck, on disait transsubstantiation est liée à la métaphysique d'Aristote. C'est tout à fait faux. Le mot substance n'a pas été inventé par Aristote. Le mot substance existe chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens. Il continue d'exister indéfiniment. Il existe encore dans la route, le mot substance. Quand vous dites que vous avez pris un repas substantiel, vous avez pris une chose, vous êtes bourré, c'est un repas substantiel. On dit qu'autrement, quand on prend pas un repas substantiel, on sait ce que c'est. Alors c'est très bien, c'est le terme habituel, substance, ou substantiel. C'est très bien ce que c'est. C'est dans ce sens-là qu'il faut substance. Pas du tout comme le dit Aristote. Donc ce n'est pas attaché à une école. Là, c'est très important, c'est pas attaché à une école. Et quand on dit que le mot transsubstantiation est attaché à une école, c'est faux. Quand on dit que c'est attaché à son Thomas, c'est faux. C'est le terme transsubstantiation tel que la tradition est donnée avant que Aristote soit pénétré dans l'Église. C'est quand même important de comprendre. Donc c'est le mot substance dans le sens des catégories. C'est descriptif. La substance, le sujet, ce qui fond, ce qui est radical, c'est ça. Donc la substance du pain, bah oui, c'est la substance du pain, c'est ce qui est radical dans le pain. Alors, ça reste très difficile à préciser. C'est la matière du pain, c'est cela, c'est l'aspect du sujet normal de ces différences, de ces différentes qualités, les sensibles propres et les sensibles communs. C'est le sujet. Je crois qu'au fond, substance première dit bien, assez bien ça. C'est la substance première, celle qu'on appelle dans les catégories. C'est le sujet. Le sujet qui nous active. Le noyau qui donne l'unité à tous ces accidents, qui est changé dans la substance du corps du Christ. Alors, c'est là où il faut bien saisir. Hein. Dieu seul peut agir sur l'être. Et quand je dis transsubstantiation, je veux dire un changement qui est sur l'être, sur l'étant, comme étant, ce qui existe, et non pas sur les formes. Nous, nous agissons sur les formes. Nous modifions les sensibles propres et les sensibles communs. Et c'est par les sensibles communs que nous modifions les sensibles propres. Hein. Donc nous agissons toujours sur les sensibles communs. La figure, le nombre, le mouvement. C'est ça, la grandeur. On agit là-dessus. Dieu, parce qu'il agit de l'intérieur, par sa toute puissance, peut agir sur l'être. C'est pour ça que la transsubstantiation exige un acte de la toute-puissance de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'Église dit que la toute-puissance de Dieu est engagée dans le mystère même de l'Eucharistie. La toute-puissance de Dieu agit directement. Tandis que trans-signification et trans-finalité, moi je peux faire ça. Je peux changer la signification d'une chose. Et je peux changer même la finalité d'une chose. Quand je mets un outil en dessous d'une vitrine dans un musée, trans-finalité, cette cruche, qui avant servait à être une cruche, va maintenant servir uniquement « Ah, c'est extraordinaire, comme c'est beau, cette cruche !» Et quelle date ! Et trans-finalité. Je dis ça, c'est pour qu'on comprenne, vous voyez, pourquoi l'Église s'attache au mot « transsubstantiation ». C'est parce que c'est, par la transsubstantiation, c'est la toute-puissance de Dieu qui est engagée. Tandis que trans-signification, trans-finalité, la toute-puissance de Dieu n'est pas engagée. Je peux le faire. Je peux changer la finalité d'une chose. Je peux changer la signification d'une chose. Tandis que je ne peux pas changer la substance d'une chose. Impossible. Le nous-mêmes. C'est le nous-mêmes de Kant, ça, c'est évident, même chez Kant, c'est transnouménal, hein. Vous voyez, c'est quelque chose de transformation, transsubstantiation, c'est quelque chose, c'est nous-mêmes qui est changé, et ce n'est pas les apparences restent les mêmes. et la réalité profonde, la réalité qu'on ne touche que par l'intelligence. La réalité profonde est changée. Ce n'est plus du pain, c'est la substance du corps du Christ. Alors, c'est ça que l'Église veut nous faire comprendre, qu'il y a donc nécessairement la toute puissance de Dieu qui est engagée dans le sacrement de l'Eucharistie. Et la toute puissance de Dieu est engagée pour que le corps du Christ nous soit donné sous les apparences du pain. Alors ça va très loin, au point de vue économie divine. C'est de comprendre que la toute puissance de Dieu est tout ordonnée au don. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, que l'Eucharistie nous fait comprendre le mystère de l'Église. C'est la toute-puissance de Dieu qui se lie à nous, qui s'allie à nous, d'une manière telle qu'elle montre qu'elle est au service de la sanctification, elle est au service de la communication de l'amour. Je crois que nous devons dire ça dès que nous employons, dès que nous comprenons ce que le terme transsubstantiation. Il y a quelque chose qui nous montre comment la toute-puissance de Dieu est ordonnée à son amour, à la communication de son amour. Alors, comprenons la substance du pain, la substance du corps du Christ. Alors, la présence de la substance du corps du Christ. Le Concile précise, à la suite de saint Thomas, que le corps du Christ est présent per modum substantiae. Alors, ça aussi, c'est pas commode à comprendre. Hein. C'est plutôt un mystère, hein, donc c'est pas commode à comprendre. C'est que le corps du Christ est présent per modum substantiae. C'est vraiment la substance du corps du Christ qui est présent. Il est présent per modum substantiae. Il est présent de cette manière particulière qui n'est pas présent comme il est dans la gloire. Il n'est pas présent à la manière dont il était dans Sainte-Marie, ou qu'il était à Nazareth, ou qu'il était pendant sa vie apostolique. C'est le même corps, mais selon une modalité différente. Selon une manière d'exister différente. Et il est présent dans l'Eucharistie, per modum substantiae. À la manière d'une substance. Alors, comment une substance est-elle présente? Un détournement complet. Per modum substantiae. Il n'est pas présent par mode des accidents. On est présent les uns aux autres. Il n'y aura que des accidents. Comment on ne les verrait pas? Parce que si des fois vous êtes vraiment fermé d'une petite quantité, je regrette, je ne vous verrai pas. Il est présent d'une façon tout à fait particulière. Permet d'une substance. Présence indivisible. C'est la substance indivisible. Elle est une, indivisible et invisible. Ce que je vois, c'est des accidents. Ce que je vois, c'est les sensibles propres et les sensibles communs. Donc il n'est pas présent par mode de quantité. Il n'est pas présent par mode de qualité. Il est présent par mode de substance. C'est-à-dire comme une présence qui nous échappe complètement au sens. C'est ça quand vous dites que quand vous touchez les espèces eucharistiques, vous ne touchez pas le corps du Christ. C'est faux de dire ça. La dévotion dit, ah, j'aime bien porter le corps du Christ. Attention, c'est faux, ça. C'est l'imagination qui nous fait dire ça. Seule la foi touche le corps du Christ, par vos mains. C'est très, très réaliste dans l'histoire de l'Eucharistie. Hein. C'est une exigence de réalisme divin. Il est présent per modum substantiae, donc il n'est pas présent par mode de sensible propre. Il n'est pas présent par mode de sensible commun, mais par mode au contraire de substance. Donc de façon indivisible, que seule la foi peut atteindre. Seule la foi. Mon intelligence ne peut pas l'atteindre. Seule la foi. Seule la foi vous faites cette présence. Per modum substantiae. De façon indivisible. Il est réellement présent. Il est substantiellement présent. Per modum substantiae. Et non pas par mode physique. Physique dans le sens, alors c'est là où la scolastique a pris un langage qui aujourd'hui énerve pas mal de gens. Je comprends que quelquefois on fait des télescopages. On a opposé physique chez moralité. Il y a eu des écrits comme ça qui ont circulé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, c'est ce qui est opposé physique. La scolastique hein, oppose, vous allez tout de suite comprendre le problème. On est prétend moralitaire à quelqu'un dans la mesure où justement on a changé son cœur. L'ami est moralement présent à son ami parce qu'il l'aime. Dès que j'aime, alors vous voyez, c'est l'intentionnalité. Hein. Le moralité, c'est l'intentionnalité. Alors je suis présent à quelqu'un, parce que tout simplement, j'ai atteint son corps. Dans la mesure où j'ai influencé quelqu'un, je suis présent à lui. Alors, on a dit, attention, c'est pas une présence morale. C'est une présence physique. Attention, le physique chez moralité, je suis tout à fait d'accord, il y a deux aspects tout à fait différents. Quand vous marchez sur les pieds de quelqu'un, vous n'êtes pas présent moralitaire. Vous êtes présent physique chez. Ça, c'est très vrai. Et vous le sentez. Alors, vous êtes présent physique chez et non pas moralitaire. Tandis qu'au contraire, lorsque vous aimez quelqu'un, vous avez écrit une lettre d'amour extraordinaire. Etc. Bon, alors là, vous avez actué le moralitaire. Vous êtes présent moralitaire, vous écrasez son pied. Mais vous écrasez son cœur. Alors, c'est autre chose. Hein. Alors, c'est très différent. C'est pas la même chose. Parce que écraser le cœur de quelqu'un, c'est moralitaire. Hein. On sait très bien, j'ai mon cœur broyé. Il n'est pas broyé physique. Non. Il est broyé moralitaire. Hein. Intentionnellement, il est broyé. Il est physique. Il y a peut-être un petit moment d'arrêt, mais ça, c'est rien. C'est le moralitaire qui agit sur le physique. Bon, alors, on voit très bien les deux. C'est pour faire comprendre cette distinction scolastique qui est très importante. Très vrai. Mais quand vous l'appliquez à la présence du Christ, per modum substantiae. La présence per modum substantiae est-elle une présence physique? C'est une présence réelle, mais pas physique. La présence physique, c'est selon les sensibles propres, les sensibles communs. C'est bien évident. Je suis présent physiquement à vous parce que je vous vois, vous voyez. Vous aimez la main. C'est la présence physique. Mais la présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est une présence per modum substantiae, c'est une présence au-delà du physique. C'est une présence par mode d'être. Puisque c'est une présence par mode de substance. Alors voyez, comme c'est délicat. Alors les gens, quand je vois très bien les réactions, on dit, ah, on n'est pas présent physiquement. Il faut faire attention. Il faut faire attention dans le langage. Quand vous dites ça, à des gens, à un public pieux, alors à ce moment-là, hyper pédale. Et pourtant, il faut éduquer un public pieux. Hein. Il faut éduquer, il faut faire passer de la dévotion à la foi. C'est les sacrements de la foi. Et c'est les sacrements qui doivent éduquer notre foi, en premier lieu. Les sacrements éduquent en second lieu notre dévotion, et pas en premier lieu. Mais en second lieu, parce que la foi a une répercussion sur notre dévotion. Alors, il faut bien saisir que si je prends la distinction scolastique, elle est un peu grosse, hein, cette distinction-là. Parce que le moralité de Fidice, il y a une troisième, permodum substantiae. Et le permodum substantiae n'est ni moralité, mais ni Fidice. Il est plus profond. Il va plus loin. Jésus n'est pas. C'est la fameuse chose de saint Thomas, c'est en se demandant si Jésus est présent localitaire. Alors, il dit, il voit très bien cette étude-là, c'est très intéressant. Là. Est-ce qu'il est présent comme, je ne sais pas, comme l'eau est présente dans le verre? Quand vous mettez de l'eau, du vin, quand vous mettez du vin dans votre verre, ben, le vin est présent dans le verre, quoi. Localitaire. Celui qui veut le voir, il ne sait rien. Il est présent. Alors, il est présent localement. Est-ce que le corps du Christ substantiellement présent, et présent localitaire. Pour être présent localitaire, il faut être présent selon les sensibles propres et les sensibles communs. Les espèces participent à ça. Elles sont présentes localitaires. Et le corps du Christ est présent par l'intermédiaire des espèces. Mais pas immédiatement, par l'intermédiaire des espèces. C'est là, on touche le mystère, on essaie de purifier, et c'est beau du reste de voir cet effort-là. C'est beau parce que ça montre comment sola fide, comme dit saint Thomas, sola fide, la foi seule, peut toucher le mystère du corps du Christ. Père modum substantiel. Il est réellement présent, il est substantiellement présent, mais par l'aide sacramentaire. Père modum substantiel. Donc, au-delà du mode physique, au-delà du mode moral. Le mode moral, ce serait dire, ah, il est présent parce que tous nous y croyons. Tu peux, dans le protestantisme, de temps en temps, c'est ce qu'on arrive, c'est le mode moralité. Hein. Il est présent parce que tous sont, on est à l'unisson dans une présence. On est fait revivre quelqu'un, parce qu'on est tous à l'unisson, alors il est présent. Il est présent le moralité. Présent moral. Je dis, c'est pas intéressant, parce que toi, tu te sens taisé, quoi, tu te fais une présence réelle, c'est bien évident. Et les vrais luthériens croient à la présence réelle. Mais il y a eu une décadence qui s'est faite. Certains, c'est une présence symbolique, parce qu'on y croit tous, c'est une présence symbolique. Non, c'est pas juste, c'est une présence réelle, au-delà du moralité, au-delà du physique. C'est évident, on va pas dire une présence métaphysique, ça dirait tant. C'est pas non plus une présence métaphysique dans le sens métaphysique, non. C'est une présence d'un type unique. Que seule la foi détecte. Si c'était une présence métaphysique, je pourrais la détecter si j'étais philosophiquement. C'est une présence d'un type unique que seule la foi peut permettre. Et c'est ça qui est contenu quand je dis transsubstantiation. Oui. Donc c'est important, quand on dit transsubstantiation, de comprendre qu'il s'agit d'une présence d'un type unique appelant la toute-puissance de Dieu pour réaliser cette présence. S'il y a des questions là-dessus, notez-les, hein, parce que je crois que c'est le moment de bien préciser tout cela, parce que c'est des sujets brûlants aujourd'hui. Je vous affirme, c'est des sujets brûlants. On n'a qu'à demander au père Philippe Marie, ainsi au sénat de Genève. Il a fait, alors c'était le scandale. Le père Philippe Marie voulait vraiment qu'on dise qu'il ne fallait pas rester dans la dévotion d'une espèce de dévotion qui n'est pas juste. Que nous ayons besoin des espèces eucharistiques et de les voir. Très très bien, ça fixe notre regard. Et les sacrements sont faits pour ça. C'est un signe. Le signe n'est pas la réalité, faisons attention, ne confondons pas le signe et la réalité, c'est pas du tout pour supprimer les espèces eucharistiques et le réalisme des espèces eucharistiques, mais ne confondons pas. Ne disons pas que le corps du Christ prend la forme de l'hostie. Non, non, c'est très faux. Les espèces eucharistiques sont présentes, elles ne sont pas modifiées et liées mystérieusement, les espèces eucharistiques ne sont pas le sujet. Non, non. Ce sont simplement le signe d'une présence invisible qui est substantielle, une présence réelle. C'est le signe, le symbole d'une présence. Et c'est très important parce que les espèces eucharistiques sont le symbole d'une présence qui est justement une présence de don. Parce que c'est le temps.